Einheit des Herrn ist etwas, die Einheit, was wir gesehen haben, ist etwas sehr, sehr Besonderes. Ich möchte einfach noch mal ein bisschen wiederholen am Anfang. Diese Einheit.
Je voudrais répéter un peu au sujet de cette unité qui est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas un certain enseignement ou un certain comportement. Ce n'est pas une unité faite par des hommes, mais c'est l'unité que le Seigneur a produite à la croix. Tout ce qui était contre ce plan, il l'a détruit. Le Seigneur l'a détruit. Le Seigneur est mort pour nous rendre un. La mort du Seigneur n'était pas juste pour notre salut, mais pour nous rendre capables d'être vraiment un. Sa croix était aussi la base pour pouvoir produire cette unité. Comme on le voit aussi de cet olivier, nous avons été greffés sur l'olivier. C'est un organisme vivant et c'est aussi une belle image. Nous sommes un nouvel homme. C'est la même chose, c'est la même signification.
Umso schlimmer ist es, gegen diese Einheit, kann ich sagen, verstoßen, diese Einheit zu zerstören.
Combien c'est grave de détruire cette unité, de s'opposer à elle. Cela revient à détruire le corps de Christ, ce que le Seigneur lui-même a accompli à la croix. Combien cette unité lui était importante. Nous le voyons aussi dans Jean 17, ce n'est pas un enseignement. Il n'a pas enseigné les disciples ou le peuple à cet endroit-là, mais il a prié une prière à ce moment-là, pour que nous soyons tous un. Donc cette unité est importante, centrale, essentielle pour son plan.
Für das, was er erreichen möchte.
Pour ce qu'il voudrait atteindre.
Heute wollen wir, habe ich drüber geschrieben, das neue Jerusalem, die vollkommene Einheit.
Aujourd'hui, le titre du message, c'est l'unité parfaite, la nouvelle Jérusalem. Quand on est dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a plus grand chose à dire sur l'unité parce qu'elle est présente. Elle sera là.
Ja, im neuen Jerusalem, dann sind wir ja alle eins.
Parfois, les gens nous disent, oui, dans la Nouvelle Jérusalem, on sera tous un. Oui, c'est juste. Mais le Seigneur voudrait déjà qu'on soit un aujourd'hui, pas juste dans le futur. Aujourd'hui, ici. Aujourd'hui, nous devrions et nous le pouvons grâce à l'œuvre qu'il a lui-même accomplie. C'est notre décision. Dans Éphésiens, on connaît ces versets qui disent que l'unité nous est donnée. Ce que nous devons faire, c'est garder l'unité, la garder. Bien sûr, parce qu'elle est tellement importante, l'ennemi voudrait nous séparer. Le but de Satan, c'est la division, c'est de détruire l'unité. Et d'une certaine manière, nous sommes un avec le Seigneur. Nous avons été greffés. Et malheureusement, cet ennemi a tout de même une certaine emprise en nous. Dans notre chair, c'est pas si simple de garder cette unité. Il y a toujours quelque chose qui vient en obstacle, qui vient combattre l'un contre l'autre, l'esprit contre la chair contre l'esprit. Mais cette unité nous a été donnée. Toutes les conditions sont posées, ont été accomplies. est cette unité est dans le plan de Dieu, dans sa volonté. Seulement cette volonté, cette unité que le Seigneur a accomplie va amener en existence le témoignage que nous sommes déjà aujourd'hui. Être un dans la Nouvelle Jérusalem, c'est une chose. Mais nous devons voir aussi qu'il y a un chemin qui va nous mener jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'est plus un problème, il n'y a plus rien à régler là. Mais nous sommes en chemin vers cette Nouvelle Jérusalem. Amen. Pour voir cette unité et pour voir un peu la Nouvelle Jérusalem, c'est important pour nous aujourd'hui, déjà très pratiquement, de regarder ce qu'il y a dans l'Apocalypse au sujet des chandeliers d'or. L'Apocalypse nous montre certaines images. Ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui, ce qu'il veut aujourd'hui pour nous, c'est déjà décrit dans l'Apocalypse, les 7 chandeliers d'or. Ces chandeliers vont aboutir dans la Nouvelle Jérusalem. Toutes les caractéristiques de la Nouvelle Jérusalem sont déjà visibles dans les chandeliers d'or aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes encore séparés par le temps et l'espace. Nous ne pouvons pas être tous en même temps au même endroit. C'est pourquoi il y a dans chaque lieu un chandelier d'or. Ce chandelier est le témoignage de Dieu dans cette ville. C'est son témoignage de l'unité. Dieu est un et sa caractéristique, c'est l'unité. Imagine que tous les frères et sœurs de Stuttgart soient un. Waouh, ce serait un grand témoignage. Incroyable. Tellement glorieux. Un seul chandelier à Stuttgart, ce serait merveilleux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malgré tout, le Seigneur voudrait un certain nombre de chrétiens qui prennent cette position, qui laissent de côté tout ce qui nous sépare, qui sont fidèles à la volonté de Dieu. Des gens qui enseignent des choses particulières, des choses différentes, malheureusement, contribuent à cette division. Mais le Seigneur voudrait un témoignage. C'est un chandelier qui brille aussi dans les ténèbres. C'est la lumière sur la montagne. Là, la lumière de Dieu peut briller sur la montagne. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse, ce n'est pas tellement facile à comprendre. Parfois c'est facile et d'autres fois c'est un peu complexe. Mais en lisant le chapitre 21-16, il dit « J'ai envoyé mon ange pour vous révéler cela, pour vous témoigner cela. » afin de confirmer cela aux églises. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon chapitre, je crois. Ce que le Seigneur dit, ce n'est pas pour une œuvre particulière, ce n'est pas pour une quelconque chose, mais c'est pour les chandeliers d'or, pour l'Église. Ces chandeliers, dans chaque endroit, c'est pratique pour nous aujourd'hui. Il doit être pratique, il doit être visible. Quand nous nous rassemblons dans notre lieu, dans l'unité, là, il y a le chandelier d'or. Ce chandelier d'or n'est pas très compliqué à comprendre. Il est en or, c'est pas compliqué. L'or, c'est la nature de Dieu. Comme Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le même principe qui compte pour le chandelier d'or. Dieu voudrait être exprimé là, à cet endroit. Il voudrait se montrer, se révéler, se dévoiler à cet endroit. Ne pense pas que c'est trop élevé. C'est prévu par Dieu et c'est donc possible de le faire. Et seulement de cette manière, il est possible de le réaliser. Ce chandelier d'or dans l'endroit, la nature de Dieu que nous gagnons chaque jour, nous achetons de l'or, nous gagnons de l'or, nous prenons cette nature, nous avons part à la nature divine, comme dit Pierre. Tout cela s'exprime à une expression, ça croît en nous et ensuite ça s'exprime. C'est le chandelier d'or. Si nous nous rencontrons dans l'unité. Amen. Nous devons voir cela. Nous devons voir aussi comment cela aboutit dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a la possibilité, aujourd'hui, pour nous, c'est un peu un avant-goût de la Nouvelle Jérusalem. Laissons tout, rassemblons-nous en unité comme le chandelier d'or dans le lieu que nous habitons. La nature de Dieu visible, remplie d'huile, ça c'est l'esprit, et qui brille dans les ténèbres. Ce chandelier brille, il éclaire. Ça ne doit pas être un enseignement pour nous, mais notre expérience. Il y a beaucoup de versets dans le Nouveau Testament, mais je voudrais en prendre quelques-uns. Dans 1 Corinthiens, où Paul parle de la division qui était visible à Corinthe, 1 Corinthiens 1, 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Pas de division. Parler la même chose. Tenir tous un même langage. Unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Avoir tous une même opinion. Non, c'est Thomas qui dit ça. Nous laisser conduire dans un même sentiment. Quand nous venons ensemble, quand nous parlons de choses pratiques, parfois il y a des différences dans nos opinions, dans nos manières de faire, mais nous avons cette source, nous avons le Seigneur. Nous pouvons venir en tout temps vers le Seigneur. Nous pouvons le prendre et nous accorder dans la même direction. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la même pensée, la même opinion. Mais ce n'est pas une raison de nous diviser, de nous séparer, même si nous avons des opinions différentes. Avoir le même langage. Si nous venons à ce Seigneur, ce seul Seigneur, alors il y a aussi une direction à suivre. Nous ne sommes pas uniformisés. Nous ne conduisons pas une certaine manière de faire, que tous fonctionnent de la même manière, par exemple. Nous avons tous le même Seigneur. Nous sommes dans une seule vie. Lui, il a une seule expression. L'unité, être un. C'est dans la nature de Dieu. Il a créé un homme. Il a appelé un homme. Il avait un peuple appelé. Il a un lieu d'adoration. Il a un temple. Certains voulaient faire mieux et ont bâti encore d'autres lieux d'adoration, mais ça n'a pas plu à Dieu. Le Seigneur a créé un seul homme nouveau à la croix. Et nous avons finalement une seule nouvelle Jérusalem, un arbre de vie qui est dans une seule rue, il y a un seul fleuve, un et un. Alléluia. Très simple. Quand ça devient compliqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Et on peut lire Romains 15, 5 à 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La source est toujours dans le Seigneur, toujours le Seigneur. Ce n'est pas une pensée commune, mais c'est le Seigneur. C'est lui qui nous conduit. Si nous avons des divergences d'opinion, nous devons venir au Seigneur jusqu'à ce que ce soit clair, jusqu'à ce que lui soit le point de départ. D'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, selon ce que lui va nous indiquer. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, dans Philippiens 2, 1 à 2, regardons un peu pratiquement les choses. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ce sont des versets qu'on peut vraiment prier le matin. Rendez ma joie parfaite, ayez les mêmes sentiments, un même amour. Souvent, ça commence déjà là. Ah, je préfère tel et tel. Je trouve que c'est un peu difficile, comme Jésus a posé la question à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Ça m'étonne toujours un peu, cette question. Pierre est assez sage en lui répondant, « Oh Seigneur, tu le sais. » Il le dit ni oui ni non. Il dit, « Seigneur, tu le sais. Ayez les mêmes sentiments, un même amour. » Alors nous pouvons nous tester un peu les uns les autres. Où suis-je ? Un même amour, une même âme, une même pensée. Ça veut dire qu'on a aussi le même but. Nous espérons avoir tous le même but, et c'est ce but que le Seigneur a fixé pour nous. De cette manière, le Seigneur peut obtenir son expression dans chaque lieu. Il y a un seul Dieu, et ce seul Dieu a une expression unique. Il y a donc sept chandeliers d'or. Vous pouvez lire comment, de quoi est constitué ce chandelier d'or. On peut lire dans Exode 25, 31 à 39, on peut voir comment est ce chandelier, comment il est fait, façonné, sculpté. Et chaque chandelier est identique l'un à l'autre. Aucun chandelier est différent de l'autre, là dans Apocalypse. Les sept sont identiques. Aucun n'est plus grand, plus petit, rien de tout ça.
Dieser goldene Leuchter
Ce chandelier est en or pur. C'est la nature sainte de Dieu.
Ces
chandeliers sont ceux par lesquels le Seigneur amène son règne sur la terre. Ne pensons pas en petit. Le Seigneur avait, dès le commencement, l'intention de faire régner l'homme sur la terre. Le Seigneur va atteindre ce but. L'homme nouveau, transformé, restauré, règnera avec Dieu. Finalement, l'agneau est sur le trône et ce Seigneur veut ramener cette domination sur la terre et il voudrait aussi obtenir une épouse qui est aussi la Nouvelle Jérusalem. Lisons dans Apocalypse 1, le verset 12.
Dort hört Johannes eine Stimme.
Jean entend une voix. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Verset 13. Cette image doit être gravée en nous. Pourquoi dis-je cela? Nous avons fait beaucoup d'expériences dans les années passées. Au travers de tous les siècles, parmi les chrétiens, il y a beaucoup d'expériences depuis la crucifixion du Seigneur. Et ne retournons pas dans les mêmes erreurs. Si nous avons cette image devant les yeux, cela peut nous déterminer. Nous voyons les sept chandeliers d'or, chaque chandelier dans son lieu, dans sa localité. Les chandeliers sont établis de façon identique. Et parmi les chandeliers, il n'y en a qu'un, un seul, le Seigneur, le Fils de l'homme. Ça, c'est l'image complète de l'Église aujourd'hui dans les temps actuels. Il n'y a pas d'organisation en dessus, pas d'œuvre à côté. Il n'y a que sept chandeliers et un qui marche au milieu des sept chandeliers. Et Jean écoute le Seigneur et il voit d'abord les chandeliers d'or. Quand nous lisons dans Exode ou d'autres endroits, dans le tabernacle, Dieu parlait au sein du tabernacle et Dieu parle aujourd'hui dans l'Église. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il se révèle. Jean se tourne pour voir qui lui parlait et il voit les sept chandeliers d'or. Cette image est importante. Vous, les jeunes, écoutez et retenez cela. L'Église est dans chaque endroit, indépendant l'un de l'autre. Mais Jésus marche au milieu des chandeliers. Ils sont indépendants, mais pas chacun isolé pour soi. C'est vraiment une image complète. Nous pouvons le voir en considérant cela, en considérant ces paroles. Si un de ces chandeliers s'en va et qu'il n'y a plus que six chandeliers, que se passe-t-il avec le septième? Il n'y a aucune indication à ce sujet dans l'Écriture. Ce que nous voyons dans Apocalypse 2, l'Église à Éphèse, si tu ne te repens pas, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Donc, une église peut se perdre. Il peut y avoir des pertes. Peu importe la raison, cela peut arriver. Nous devons réaliser cela. Les églises ne sont pas seules. Elles ont de la communion. Elles appartiennent l'une à l'autre. Mais personne n'est au-dessus de ces chandeliers. Rien, aucune œuvre n'est au-dessus d'elle. Aucun apôtre s'occupe des chandeliers en particulier. Bien sûr, il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants. Mais quelle est leur mission? Lisons ensemble, c'est mieux qu'on regarde la parole dans Éphésiens 4.
Il y a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des hirten et lehrer. Damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes.
Alors, il a donné, Ephésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Chacun sert de manière à ce que le corps soit édifié. Aucun de ces ministères n'a une œuvre particulière. Le Seigneur parle dans les églises. Et c'est une expérience des dernières années. Plusieurs choses se sont passées qui nous ont occasionné des problèmes. Mais nous avons vu que la parole du Seigneur continue. Le Seigneur continue de parler. Le Seigneur parle et parle et encore. Et c'est lui qui approvisionne et c'est lui qui dirige. Bien sûr, il utilise des hommes pour ce faire. Mais chacun doit servir dans le but d'édifier l'Église. Aucun de ces hommes n'a une œuvre particulière ou une mission spéciale au milieu des églises. Et dans Actes, nous avons l'image et nous voyons d'où viennent les apôtres. On peut aussi lire dans Actes 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, aucun d'eux n'a bâti quelque chose de particulier, de spécial pour lui-même, mais ils étaient ensemble dans l'église à Antioche, et ils jeûnaient et priaient ensemble. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Ça montre que ces hommes, ils étaient là pour visiter d'autres églises, pour aller voir d'autres frères et sœurs. Mais ils ont été envoyés par le Seigneur pour leur mission auprès d'autres églises. Si tu es bâti ensemble en un seul corps, alors tu ne peux pas élever un frère, un apôtre. Tu ne peux pas apprendre aux autres à bâtir l'église si toi-même tu n'es pas dans l'édifice. Là, ils ont été pleinement accompagnés dans leur œuvre. L'église a l'autorité. L'église peut envoyer quelqu'un. Mais il n'y a pas d'œuvre à côté de l'Église. Ce n'est pas quelque chose de différent que ses frères ont été appelés à faire. Aujourd'hui, c'est le temps des chandeliers d'or. Apocalypse 1 à 3, c'est le temps d'aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans les Églises. Beaucoup de choses qui s'opposent, qui frustrent l'œuvre de Dieu. Mais ce qui sort, c'est que le Seigneur règne sur la terre, sur Babylone. Il y a un jugement. Il y a un jugement qui s'opère, mais le but de l'Église, c'est d'amener la Nouvelle Jérusalem, de nous conduire tous à la Nouvelle Jérusalem.
Et
il y a beaucoup de choses qui veulent détruire cette unité
dans
l'Église à Éphèse. On voit qu'ils ont laissé le premier amour. Il y avait donc d'autres choses qu'ils affectionnaient. Et quelque part, à un certain moment, ça va se séparer, ça va causer des problèmes.
Et
déjà dans l'Église à Éphèse, nous voyons les œuvres des Nicolaïtes. Donc si on n'aime plus trop le Seigneur, si on n'est plus trop pour son plan, si j'aime quelque chose d'autre, si j'ai d'autres aspirations, et si j'ai peut-être pas assez de temps pour me tourner vers le Seigneur, alors je prends quelqu'un qui s'occupe des affaires du Seigneur, je prends quelqu'un qui va... qui va être au-dessus de tous ceux qui sont laïcs et qui va donner la parole. C'est l'enseignement des Nicolaïtes. Et ces enseignements sont déviants.
Dans
toutes ces églises, il y a quelque chose à vaincre. Et il est important de voir cela. La condition de l'Église doit être... On doit vaincre la condition. La condition qui est là, présente dans l'Église. À Smyrne, il fallait aussi vaincre. Il cherche où c'est. Là, il y a la persécution. Il ne faut pas se fatiguer. Nous sommes dans un temps particulier aussi. Nous sommes dans un temps qui nous fatigue peut-être, nous décourage. Mais nous devons aussi vaincre ces choses-là, ces conditions-là. Je ne sais pas comment ça va se poursuivre. De façon générale, je ne sais pas. Avec les conférences même, nous ne savons pas. Pour l'instant, on peut encore se réunir. Merci Seigneur. Mais tout découragement, tout ce qui n'est plus comme c'était une fois, ça n'a pas tellement d'importance. Restons le Seigneur, restons vers le Seigneur et vainquons ces choses. Le Seigneur va nous approvisionner, le Seigneur va nous conduire. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous vainquons simplement tous ces obstacles qui sont devant nous. Et souvent, dans ces chapitres 2 et 3, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur, prendre la manne cachée, par exemple. Amen, Seigneur. Ou laisser le Seigneur entrer pour festoyer avec lui. Et venons-en à Philadelphie. Philadelphie, c'est l'Église qui conduit à la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a rien ici qui soit un obstacle. Il y a l'amour fraternel, il y a la croissance. L'amour fraternel et l'amour sont ici à Philadelphie. Le point particulier ici, c'est que le Seigneur lui dit, tu as une petite puissance. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Ça veut dire que nous pouvons toujours venir au Seigneur. Nous prenons le Seigneur. Nous regardons à lui en toute chose. Nous ne rejetons pas, nous ne renions pas son nom. Nous venons à lui. nous tenons ferme à sa parole. Verset 10, tu as gardé la parole de ma persévérance. Apocalypse 3, 10. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La parole de la persévérance. Nous devons aussi persévérer. Même Jean, quelqu'un a lu, dans Apocalypse 1, 9, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, être chrétien et bâtir l'Église signifie marcher ou courir dans un marathon. » Donc, garde tes forces, approvisionne tes forces pour que tu puisses atteindre le but de ce marathon. Ce n'est pas juste une course d'estafette, c'est une marche de longue durée. Nous avons besoin de persévérance. Ensuite, il dit encore à Philadelphie, celui qui vaincra, il y a aussi lieu de vaincre, justement, les manquements, la fatigue. Eh bien, toutes ces choses, nous devons les vaincre afin d'être une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Ce ne sont pas trois noms différents, c'est un seul nom. Mais là, nous voyons aussi cette unité que le Seigneur souhaite recevoir. L'unité avec le Père, avec le Fils, et dans la Nouvelle Jérusalem, tout est un. Amen. Tout ce qui s'oppose à cela, nous devons le vaincre.
Laodicée
n'est pas mentionnée par hasard après Philadelphie. Nous pouvons devenir tièdes. Ça peut nous être indifférent. Tant de choses peuvent nous passer par-dessus. Amen. Ainsi, gardons cette image. Il m'est important que nous voyons ces chandeliers d'or. C'est dans l'unité, c'est de l'or. Une seule pièce d'or. C'est merveilleux de lire la description, comment Dieu l'a obtenu. Celui qui a dû sculpter ce chandelier devait être très doué de pouvoir produire un chandelier d'une seule pièce. Mais c'est ce que le Seigneur fait aujourd'hui avec nous. Le chandelier d'or est produit dans chaque localité. Et ces chandeliers d'or ne sont pas pour nous, chacun individuellement, ils sont reliés ensemble par le Seigneur qui marche au milieu d'eux. J'aimerais encore répéter, il n'y a pas d'œuvre qui puisse soutenir l'unité entre les chandeliers. Il n'y a rien, il n'y a pas de personne douée au point de pouvoir tenir ces chandeliers ensemble. Mais c'est bien le Seigneur lui-même qui est au milieu des chandeliers et qui parle à chaque chandelier.
Il y a
une seule parole, une seule direction de parole entre les chandeliers. Le Seigneur ne va pas dire une chose à l'un et une autre chose à l'autre chandelier. Moi, j'ai cet enseignement et toi, tu en as un autre. Non, 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 ça ne joue pas. C'est impossible. Le Seigneur va toujours dire la même chose. Sa parole est une, unique, un Dieu, une expression, un Dieu, une parole, absolument certain. Dans Apocalypse 22:17, il est dit, l'esprit et l'épouse disent, même cette parole est un. Il y a une voix que j'entends parmi les sept chandeliers. Il n'y a pas de beaucoup de voix diverses, un brouhaha. Non, pas du tout. Il n'y a pas de ça. Auprès du Seigneur, il n'y a pas ça. Parmi les hommes, oui, il y a tant de voix, différentes. Quand on se sépare, quand on se divise, c'est toujours l'être humain qui est derrière. Dans Apocalypse, Paul dit, dans Acte, Paul dit, il y a des hommes qui se sont levés, qui disent des choses tordues, qui veulent attirer des autres à eux. Si vous lisez l'histoire de l'Église, il y a toujours le même schéma qui se reproduit. Donc nous devons aussi être vigilants. Lisons cela. Dans Actes 20. À partir de 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, dit Paul après ça, veillons, spécialement dans les derniers temps. Je suis convaincu que nous sommes probablement près de la fin. Je ne sais pas quand le Seigneur vient. Il n'est impossible de donner une date, le Seigneur le sait, mais le temps est mûr, le monde est mûr. Ce qui manque encore, c'est que nous soyons prêts, c'est que nous soyons mûrs. Et nous devons nous préoccuper de ça aujourd'hui. Tout le reste, tout ce qui s'oppose à cela, nous devons le vaincre. Nous pouvons le vaincre. C'est ce qui est normal. Vaincre, c'est normal. C'est accessible. C'est faisable. Vaincre, c'est le point essentiel qui va nous montrer comment nous allons aboutir à la Nouvelle Jérusalem un jour. Comment nous pourrons être cette Nouvelle Jérusalem? Ce n'est pas une ville physique. Si nous vainquons aujourd'hui, si nous laissons les choses aujourd'hui, si nous prenons la croix, si nous prenons le Seigneur, si nous prenons son œuvre, si nous voyons qu'il a enlevé tout mur de séparation, toutes nos considérations, nos pensées, nous vaincrons, nous serons avec lui, nous serons auprès de lui avant la grande tribulation. Nous serons enlevés au trône. Ce temps nous sera épargné. Ceux qui ont vaincu, eh bien, il y aura le temps de la célébration du mariage. L'Écriture nous montre cela. Ce n'est pas un secret non plus. Le Seigneur nous le montre pour nous encourager, que nous persévérions, que nous continuions dans son œuvre, aujourd'hui, dans l'unité, et que nous bâtissions l'Église dans chaque localité. Amen. Amen. On a terminé.